Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. En matière de vœux pour 2008, je n'en rajouterai pas. Vous avez probablement eu votre dose d'inanité diverse, d'hypocrisie multiple. J'espère que vous avez eu la sagesse de coucher sur papier. C'est très très important de les écrire. Vos propres résolutions, vos propres souhaits. Amusez-vous à cet exercice. Vous verrez qu'au-delà de la convention ennuyeuse de souhaiter à tous les étrangers que vous croisez les choses des meilleures pour les 365 jours à venir, se souhaiter à soi-même quelque chose est une épreuve relativement rude, mais assez passionnante. Juste la merveilleuse occasion de tester la qualité de son désir. Si vous ne vous sentez pas capable de vous souhaiter des choses agréables et précises surtout, évidemment, on se dit « je souhaite être heureuse pendant... » Ça n'a pas de sens, être heureux, évidemment, tout le monde veut être heureux. Mais comment ? Comment se souhaiter le bonheur ? C'est plutôt ça. Alors prenez, si vous n'y arrivez pas, vous prenez très rapidement rendez-vous chez qui vous voudrez, selon votre culture, psychanalyste, curé, sorcier, ou coach sportif d'ailleurs, ceux qui aiment bien, et faire du sport un peu pour se libérer. J'ai adoré, et je ne le dis pas par flagornerie sous prétexte qu'elle serait là devant moi, j'ai adoré les vœux de mon invité de ce soir pour l'année 2008. Je lis « Tant qu'un esclave n'a pas la tête tranchée, rien n'est complètement perdu pour lui. » Olé ! Très important le olé, sinon ça ne veut pas. Vous n'avez donc rien à craindre pour l'année prochaine. Bonsoir Anne-Marie Simon.
Bonsoir.
C'est pas exactement vous qui avez écrit ça d'ailleurs. Enfin si, c'est vous. Évidemment c'est vous qui l'avez écrit.
Ça sort de la Citalis.
Mais voilà, ça sort pas de votre bouche. Ça sort de la sienne.
Ça sort de la sienne.
Ce qui est très différent. Même si c'est vous qui l'avez écrit. Vous l'avez écrit pour le mettre dans la bouche d'Alice. Mais enfin, c'est quand même vous.
C'est quand même moi.
Du début à la fin. Vous êtes Anne-Marie Simon, à la fois dessinatrice, peintre, auteure de bande dessinée, auteure de romans, éditrice, j'en oublie probablement. Vous avez fondé avec Philippe Dubuc les éditions du Héron, installées à Lausanne. À Lausanne, disons, la partie la plus visible est à Lausanne, mais aussi à Paris.
C'est-à-dire que la maison d'édition a son siège à Lausanne, mais on a un bureau à Paris. Donc on partage son temps entre Paris et Lausanne.
Heureusement pour vous d'ailleurs.
Oui.
Hein ? Vous ne pourriez pas ne pas aller à Paris.
Non.
Mais vous ne pourriez pas exactement non plus quitter tout à fait Lausanne. Si.
Je crois que si.
Pas tout de suite, ne le dites pas tout de suite. On peut le dire à la fin, ça, pas au début. Si un mot devait vous résumer, j'ai le sentiment que je pourrais choisir celui de résistance.
Ah, tout à fait.
Résister.
Résister.
Tout le temps.
J'ai passé ma vie à ça.
Ouais. C'est curieux, non ?
Non.
On sait comment ça s'installe, cet esprit de résistance ?
Non, non,
vous en avez la moindre idée ?
Non, on est avec ça.
On est avec ça ?
Oui.
Et c'est pas... Parce qu'on peut, se dire qu'on est né à une, certaine période, dans un certain pays, avec certains parents, dans des contextes particuliers. Vous, un petit peu quand même, parce que vous naissez au milieu de la guerre, après tout. Hein, sont pas des périodes tout à fait faciles.
Oui, bien sûr, mais malgré tout, Benjamin Dollinger, à côté
vous
de
allez,
moi...
Vous allez nous le présenter.
Lui est un grand résistant.
Aussi.
Hein. Ah oui, oui.
Ouais. Vous n'êtes donc pas venue toute seule, évidemment.
Non.
Vous auriez l'obligeance de nous présenter votre invité ?
Si, si. Alors, j'ai invité Benjamin Dollinger, qui est écrivain, né en Roumanie et devenu suisse en quelle année ? Ça, je ne sais pas.
Par mariage.
Par mariage. Ça a l'air de vous désespérer de dire ça comme ça, par mariage.
Non, non, je ne crois pas.
Donc, pas devenu suisse, en fait. Mais
oui.
Rester roumain. Mais suisse par mariage.
On vit l'époque de la globalisation, on est tous internationaux.
On est tous pareils ?
Oui.
Non.
Non.
Pas pareil.
Benjamin Dollinger, on n'est pas tous pareils.
Non.
Non, non, on n'est pas tous pareils, mais vous pensez bien, les jeunes aujourd'hui, ils disent demain je vais à Bangkok, ce n'est pas les mêmes notions qu'autrefois.
Si vous vous rapprochez du micro, on profiterait encore plus et de votre voix et de vos propos.
Oui.
Merci Benjamin Dollinger. Comment s'est faite la rencontre Anne-Marie Simon avec Benjamin
Dollinger ? Eh bien, chez Pierre Ugly. Justement, parce que j'aime beaucoup Pierre Ugly, que je connais depuis très longtemps, puisqu'il était critique musical à la Gazette de Lausanne. Et je me souviens encore quand il entrait au Palais de Beaulieu. comme critique. Il arrivait avec un chapeau noir, une grande cape noire. Il n'est pas très grand. Et il avait une allure extraordinaire avec cette immense cape noire et une barbe noire. Et puis, je l'ai retrouvé par la suite et on est devenu assez amis. Mm-hmm. Et Benjamin Dollinger est un grand ami à lui. Alors, un jour qu'on allait déjeuner chez Pierre Hugli, Benjamin Dollinger était là. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance.
Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés.
Et c'est comme ça que, pour moi, c'était un espèce de flash de sympathie, parce que c'était quelqu'un qui résistait à tout, qui riait de tout, et qui avait ce sens de l'absurde que j'adore.
Et dont vous avez édité, donc les éditions Le Héron, un livre de nouvelles, Le Testament à répétition, oui. Précisément préfacé par Pierre Hugli.
Voilà.
Une préface absolument formidable, mais on y reviendra. Et nous aurons l'occasion, évidemment, Benjamin Dollinger, de revenir sur votre vie, particulièrement, agitée, atypique, résistante. Mais auparavant, j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous nous fassiez le portrait d'Anne-Marie Simon. Tel que vous l'apercevez, portrait, j'imagine, amical, enfin, je le suppose.
Écoutez, c'est une personne étonnante. Enfin, pour moi, parce que... Par exemple, en regardant Alice.
Oui, la petite Alice.
Oui, alors...
Les comic strips, hein,
bandes dessinées, comme on dit. On voit un esprit espiègle. On peut revenir sur cette notion de résistance, parce que c'est une petite fille qui ne se laisse pas faire. Et puis, c'est comme un miroir. Malgré qu'on n'est plus tout jeune, mais elle a cette fraîcheur qui m'a toujours attiré, puis qui me... Chaque fois, j'ai un plaisir immense à parler littérature,
et cinéma.
Cinéma et aussi vie.
Quand vous faisiez référence à la petite Alice, on en parlera bien sûr. Alors elle est non seulement rebelle, la petite Alice, mais elle est extraordinairement cultivée pour son âge. Elle a des références hallucinantes,
ah
la
oui.
petite Alice. Hein
oui, oui.
Oh de Dieu, on rêve tous d'avoir une petite fille comme ça, extrêmement rebelle, mais alors qui a tout lu.
Oui.
Alice a tout lu quand même, je ne sais pas, elle a quoi. Elle a 8-10 ans.
Parce que vous savez bien que dans certains médias, il y a une tendance de nivellement vers le bas. Et là, on a affaire à une fille qui n'est pas seulement un peu roublarde, mais... Elle a du répondant.
Elle nivelle par le haut, ce qui n'est pas facile comme exercice. Essayez, vous voyez, niveler par le haut, ce n'est pas simple. On va commencer en musique. J'avais choisi, moi, un petit extrait d'Ariane Anaxos, de Richard Strauss. Ce soir, le programmateur s'est oublié. Alors, c'est un vrai bonheur de temps en temps, parce que ça veut dire qu'on va faire notre propre programme musical. Je vois déjà la direction tomber à la renverse dans son fauteuil à la maison, en disant, mon Dieu, quelle horreur. Ah ben, c'est comme ça. Quand le programmateur oublie, qu'est-ce que vous voulez, on se laisse aller. Et vous verrez que ce n'est pas si terrible quand on se laisse aller. Alors, moi, j'avais choisi Ariane Anaxos pour différentes raisons, dont une. Mais, ben voilà, non, vous m'avez... contrainte à un autre choix. Mais on reste chez Richard Strauss et avec une autre femme, une autre personnalité, autrement plus trouble finalement qu'Ariane, encore que, c'est Salomé.
Non, elle n'est pas trouble.
Salomé
On pourrait en parler.
Oui, on pourra.
On pourrait en parler. Vous voulez qu'on en parle avant ou après ?
Non, on va l'écouter d'abord.
Oui.
Alors, je ne sais pas, j'ai demandé à Jean-Claude Gailly de nous organiser la fin de cet opéra de Richard Strauss, et j'ai choisi une voix que j'adore. Enfin, après tout, là, vous pouvez aussi ne pas être d'accord, c'est celle de Léontine Price.
Oh.
Voilà, vous disiez en écoutant, enfin, je voyais immobile, figé dans l'écoute, c'est extraordinaire. De temps en temps, il est boulaché, mais c'est extraordinaire.
Mais parce que je trouve cet opéra extraordinaire.
C'est le chef-d'œuvre de Richard Strauss,
pour moi,
demeurant,
oui.
Véritablement.
Oui, vraiment.
Cette voix extraordinaire.
Ah, celle de Leontine Price, alors ça c'est autre chose.
C'est de Laurent Barr.
Oui.
Et la seule chose qui m'a étonnée, parce que j'ai jamais entendu cette version avec cette chanteuse, c'est qu'elle a une voix plus mature que ne devrait l'avoir Salomé, mm-hmm. qui est une adolescente.
Leontine Price est noire. C'est une chanteuse noire.
Mais qui a une voix qui est plus femme, oui. Tandis que Salomé est une adolescente. Et je ne sais pas quelle pourrait être la voix adolescente de la Salomé dans l'opéra de Strauss.
Schwarzkopf, j'imagine, c'est toujours Elisabeth Schwarzkopf quand on cherche des voix fraîches et pures et légères.
Oui, c'est vrai qu'elle a une voix un peu... Oui. Mais alors à ce moment-là, il faudrait qu'elle ait cette espèce de pathos et ce...
Gundula Janowitz, on ne va pas faire le tour de toutes les chanteuses
elle
qui ont chanté
une voix
Strauss,
de cristal, oui. Mais je ne sais pas si elle pourrait faire Salomé, parce qu'il faut quand même quelque chose d'une violence extraordinaire.
Il faut beaucoup de chair.
Énormément.
J'avais pas tellement envie qu'on parle de Salomé. Moi, je voulais qu'on parle d'Ariane, à vrai
bon,
dire.
Bah alors,
c'est
d'Ariane.
Pour ça que j'avais choisi Ariane Anaxos, parce que c'est le titre de votre deuxième roman.
Oui.
Ça fait pas beaucoup, deuxième roman, quand on considère qu'il y en a un troisième, hein, sinon j'aurais dit le second. Mais enfin, ça aussi, on va y venir. Donc Ariane, elle n'est pas sur le rocher battu par les tempêtes, mais votre héroïne se bat, tout comme Ariane, comme l'Ariane de la légende, de la mythologie, dans les déchirements du cœur et des relations familiales, avec sa sœur, comme dans le mythe. Et pourquoi avoir choisi l'exploration contemporaine de ce mythe-là, précisément?
Alors, ça s'est passé par hasard. Après avoir terminé Le Séducteur, donc le premier roman, et j'avais...
Un autre mythe,
oui, j'adore explorer les mythes. Et puis, j'adore les mettre à l'envers, c'est-à-dire les retourner comme un gant, et puis aller voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Qu'ils sont universels aussi, montrer qu'ils fonctionnent.
Oui, mais forcément, ils sont universels. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose auquel on ne pense pas chez eux. Donc, j'aime les retourner comme un gant pour savoir ce qu'il y a. Qu'on n'a jamais vu ou qu'on n'a jamais voulu voir.
Alors, chez Ariane, qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Alors, chez Ariane, finalement, c'est elle qui m'a eue.
Elle avait déjà tout dit.
C'est elle qui m'a eue parce que j'en ai fait... Tous les personnages que j'ai créés se sont toujours faits eux-mêmes. Donc, au début, je voulais me mettre dans la peau de Thésée, puisque j'ai mis dans la peau de Giovanni. Dans le premier roman.
Le séducteur.
Et puis, je me suis dit, j'ai passé 4 ans, 5 ans dans la peau d'un homme, je pourrais peut-être changer quand même. Parce que j'étais intriguée par le fait qu'un homme puisse aimer d'abord la sœur aînée, puis la sœur cadette. Et je me disais, il y a forcément quelque chose, il y a dans la sœur cadette quelque chose qui appartenait à la sœur aînée, ou qui appartient encore, et qu'il cherche à retrouver. Et puis, je me suis rendu compte autour de moi que les lecteurs me disaient « Mais comment Ariane et Phèdre sont sœurs ?» Parce que c'est vrai que dans les aventures de Thésée, on voit d'abord Ariane, puis on oublie, il part, il fait une immense tour, il épouse la reine des Amazones, il a un fils, il revient, et puis il épouse Phèdre, et on oublie qu'il y avait une Ariane parce qu'on n'en parle plus du tout.
Sur son rocher, qui attend, désespéré.
Mais non, parce que, en plus, en cherchant, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fins. Que Ariane, dans une des conclusions, finissait seule sur Naxos et se suicidait. Et dans une autre version...
Elle est séduite par Dionysos. Dionysos est séduit par Ariane.
Lui qui est séduit, et c'est lui qui vient la voir, la chercher, lui dit « Je deviens ma femme ». Bon, je ne sais pas si on disait « Deviens ma femme » à cette époque-là, surtout dans un mythe.
On le disait en grec. Bon, oui.
Oui.
Je sais pas comment on le dit en grec.
À ce moment-là, elle est partie avec lui. Elle a apparemment fondé une famille. Donc, il y a deux fins. J'ai choisi la deuxième fin parce que je me suis dit la première fin, le suicide, c'est beaucoup trop triste, ça va pas du tout. Et puis, j'avais dans ma tête le Lucien, son mari, puisque j'ai situé les personnages, la constellation des personnages dans notre monde moderne. Il lui fallait un mari. Donc, j'ai trouvé Lucien. Et d'ailleurs,
C'est Dionysos.
Ben oui, mais ce qui est très curieux,
c'est la lumière.
Ce qui est très curieux, il a cette personnalité extraordinaire qui éblouit Ariane, et dont elle a absolument besoin, la lumière, la bonté, la beauté. La beauté, toujours, elle en parle souvent, elle ne peut pas vivre sans la beauté. Et en cours de route, j'ai oublié ce Dionysos et il est devenu Lucien, tout seul, jaloux, colérique.
Dionysiaque, d'une certaine manière.
Mais de toute façon.
Contre l'Apollinien Constantin, qui lui est beaucoup plus raide, beaucoup plus dur.
Ah, mais oui,
beaucoup
mais
plus
lui,
strict, beaucoup
comme
plus
dit
rigoureux.
Ariane, il est plus, elle dit à sa belle-sœur, Faudrait que je retrouve le roman.
Je l'ai là.
Vous si regardez. Je le trouve, elle se dispute avec sa belle-sœur, qui est une femme très, très guindée. Elle lui dit...
Parce que c'est un livre d'une densité absolument hallucinante. Alors pas seulement dans le texte, qui est un texte dur, qui est un texte parfois poétique, parfois violent, parfois d'une cruauté. Les deux termes se valent pour ce titre. Mais par ailleurs, il y a pas de chapitre. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais.
Non.
Ça commence.
C'est comme au cinéma.
Et on va jusqu'à la fin.
Voilà.
Et on n'a pas le droit de respirer. Et si on respire, on est sorti du jeu.
Voilà.
De quelque manière.
Oui.
Hein.
C'est comme un film. Je crée comme ça. Je me mets, comme je mets les lecteurs, comme au cinéma, dans un fauteuil et je leur dis maintenant, vous voyez un film. Et je décris jusqu'à ce que. Ah non, le Capharnaüm de la chambre de. Oh, voilà.
On y vient.
On y vient.
Et on ne trouve pas. Ça reviendra.
Excusez-moi, c'est complètement idiot.
Mais vous
n'avez
qu'à mettre des chapitres. Ça vous apprendra.
Oui, ça m'apprendra. Mais je ne changerai pas pour autant.
Non, j'imagine. En tout cas, c'est un livre absolument magnifique.
Voilà, j'ai trouvé. Ma parole, ça c'est Ariane qui dit à Alexandra. D'ailleurs, être vulgaire et faire rougir Alexandra est un plaisir sans égal. Je continuais. Ma parole, je me demande comment tu peux être la sœur de Lucien, ce débauché qui en sait plus long sur le sexe qu'une douzaine de satires, et la sœur de Mélanie qui ne pense qu'à mettre la main aux couilles de tous les hommes qu'elle rencontre.
Ça vous fait rire. Vous êtes trop fière de pouvoir lire ça.
Non, pas du non. tout. Ah non, il n'y a pas de fierté. Il n'y a non. pas de fierté, non.
Vous aimez ce style-là, c'est un style extraordinairement direct.
Oui, mais c'est moi.
Oui, c'est vous.
Donc, je n'ai pas à être fière.
On peut être fière d'assumer une singularité.
Non.
Non, d'être une femme particulière, d'être une femme à part, qui n'a pas peur des mots, qui n'a pas peur des sensations, des sens, des sentiments, de la violence, qui dit d'ailleurs elle-même qu'elle est parfois effectivement violente et qu'elle pourrait même filer des coups de poing s'il fallait.
Ah, vous avez lu l'article.
Oui.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais il faut l'assumer, tout ça. C'est pas toujours facile.
Non, mais je l'assume très bien.
Oui, ça se voit. La deuxième raison pour laquelle j'avais choisi l'opéra, c'est que après quelques années de dessin de mode, vous travaillez autour de l'opéra, alors de Strauss, de Wagner, que vous commencez. C'est là que vous commencez, si vous voulez, une carrière un peu en zigzag par la scénographie.
Oui.
On est à la fin des années 60, à peu près, début 70. La scénographie est pratiquement un métier qui n'existe pas, qu'il faut inventer. Dans ce terme-là, le terme, lui, enfin scénographe, ça n'existe pas. Il y a les metteurs en scène, encore qu'eux, ils ne sont même pas tellement à la mode.
Non, et quelquefois, souvent, je me suis demandé quelle était la différence exacte entre le décorateur de théâtre et le scénographe. Et je pense que le scénographe détermine mieux ou plus le comportement des comédiens qu'un décorateur de théâtre qui les, comme dans un théâtre à l'italienne, qui les met entre des rideaux avec un fond de scène. Et donc la scénographie intervient sur les mouvements des comédiens.
Sur leur psychologie même, peut-être. Elle intervient sur l'histoire.
Oui, mais de toute façon, c'est vrai, l'environnement agit toujours sur la psychologie des êtres humains. Alors, je travaillais là avec mon ex-mari, et on a travaillé ensemble, et on a fait des projets. Et ça, c'était absolument passionnant.
Au point que, d'ailleurs, vous remportez le premier prix de la Biennale de Paris, 69.
On a reçu...
Avec le ring.
Avec le ring, oui. Alors, on a étudié le premier acte, puis la fin du deuxième acte, avec Wotan et Brunhild. C'est la fin du deuxième acte. Mais on a tout étudié, évidemment. Et on a fait une espèce de dispositif qui pouvait bouger selon la musique selon ce qui se déroulait sur scène, selon le duel, parce que c'est un duel entre Wotan et Brunhild. Et ça a été absolument passionnant.
Qu'est-ce que vous faisiez en 68? Vous peigniez des slogans sur les murs de Paris, que vous scandiez sur les barricades?
En 68, à Paris, je travaillais.
Et voilà.
Alors, je faisais du stop pour aller d'un endroit à un autre. Et je travaillais. Je n'ai pas vu les barricades, je n'ai pas vu les feux. Je ne me suis pas amusée, j'ai fait que travailler.
Et vous, Benjamin Dollinger, qui étiez-vous en 68?
J'étais... Quelques semaines avant, j'ai quitté Paris.
Avant mai 68?
Oui, mois d'avril.
Pour repartir en Roumanie?
Non, je suis allé en Italie. Et puis... Je me suis dit, t'as pas de chance, tu veux voir Paris et quand il se produit un tel événement, tu es déjà loin, mais on ne peut pas tout avoir, je me suis dit.
Comment on ne peut pas tout avoir?
Mais écoutez,
mais que faisiez-vous?
Des révolutions de ce genre, c'est intéressant à voir.
Quand on vient de Roumanie, on en a peut-être vu, on n'a peut-être pas nécessairement envie d'en revoir.
Oui, mais c'est... Vous savez, quelqu'un qui a été... qui a eu son biberon, Victor Hugo, Gavroche, Les Misérables, on a toujours cette mythologie en tête et puis on aurait bien aimé être un témoin. Enfin, c'est...
Bon, ça c'est ce qui arrive aux idiots.
Mais oui, voilà.
Comme le dit, comme l'écrit Pierre Hugli dans la préface de ce testament à répétition, donc paru aux éditions du Héron. Préface de Pierre Hugli, éloge absolu de l'idiotie. Je trouve merveilleux ce qu'il dit. La première fois que je rencontre Benjamin Dollinger, je sais que j'ai affaire à un idiot. Et il enchaîne et il fait toute la préface sur un éloge.
Écoutez, j'étais vraiment idiot parce que je travaillais comme j'ai fait toute ma vie pour gagner mon pain. Et puis un jour, je prends mon courage à deux mains et je vais à la Gazette de Lausanne où Pierre Hugli dirigeait le département culturel. Et je lui présente des histoires et puis vraiment, j'étais un idiot parce que ça ne se passe pas comme ça. Et après ça, je suis parti et puis une semaine plus tard, j'ouvre la Gazette et le supplément culturel, je vois mes histoires... publié, je suis tombé vraiment de
à la renverse.
Haut, mais
donc c'est bien comme ça que ça se passe finalement.
Oui, c'est la chance d'un idiot.
Des nouvelles extraordinaires, des nouvelles absurdes, à la fois affreusement cruelles et horriblement drôles. Enfin, je sais pas comment dire ça. Comment vous les aimez ces nouvelles de Benjamin Dollinger?
Oh, moi, je les adore. J'adore cette absurdité.
Elles font froid dans le dos. Tout à l'heure, avant l'émission, Benjamin Dollinger évoquait Eugène Ionesco, autre roumain, autre écrivain de l'absurde. C'est quoi? C'est un caractère roumain particulier que la capacité à manier avec légèreté l'absurde, la cruauté, l'humour, tout ça tissé ensemble?
D'abord, je ne connais pas toutes les définitions, mais pour moi, l'humour, c'est une opposition. Une résistance, comme vous l'avez bien dit. Et puis, il y avait une traduction dans la littérature roumaine. Je vous ai montré ce volume que j'ai traduit d'une...
Les pages bizarres.
Un surréaliste qui s'appelait Urmuz, enfin, c'était son nom d'écrivain, avant la lettre, avant le mouvement Dada de Zurich. Et puis... C'était une résistance à la société, bien qu'à l'époque, ce n'était pas tellement évident qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il était tellement opposé à la société parce qu'à un moment donné, il allait dans un pavillon d'un parc et puis il s'est tiré une balle dans la tête. Mais ça a... ouvert un peu la voie au surréalisme, à l'absurde, comme ça s'est passé à Zurich pendant la Première Guerre mondiale, le cabaret Voltaire. Mm-hmm. Et puis il y avait un des fondateurs de ce mouvement dadaïste, c'était un Roumain, Tristan Tzara. Et nous, on a vécu des années de guerre, de dictature, on ne pouvait pas avoir ce livre, mais on en parlait beaucoup. Et on a essayé toujours d'apprendre un peu, et puis ça nous est entré dans le sang, cette manière de ridiculiser ce qui est oppressant, ce qui est les systèmes totalitaires.
Ce qui est insupportable, intolérable. Ouais. Quand on lit votre biographie, Benjamin Dellinger, enfin, elles sont souvent très, très courtes, les biographies. Ouais. C'est-à-dire, elles tracent le chemin très rapide d'une vie qui a pris plein de détours. On voit que vous partez du monde ouvrier pour aller vers le monde culturel. On dit, il était ouvrier, puis pof, après il est philosophe. C'est un peu comme ça va très très vite. C'est comme ça?
Oui, mais vous savez, on ne fait pas. Vous avez de la chance. Vous faites un métier que vous adorez, je pense. Mais dans la vie.
On va dire ça comme ça.
Et puis dans des temps durs, des temps d'oppression, on ne choisit pas toujours. Alors, j'ai fait tout ce qui
était possible de faire.
Était possible de faire pour gagner ma vie, et puis gagner mon intégrité, et puis d'apprendre des choses, et puis de satisfaire cette passion. Anormal, exagéré pour la littérature, ça a donné ça.
Enfin, c'est un petit livre. Il n'est pas d'une épaisseur folle, mais c'est un petit livre.
Non, mais le contenu est immense.
Le contenu est immense, c'est insondable. C'est-à-dire qu'on reste pantois à la fin de certaines de ces nouvelles. On est parfaitement désemparé. C'est-à-dire, pendant la lecture, on lit, on rit. On se gratte un peu dans le dos, on a envie d'éternuer, il y a quelque chose de physique qui se passe à la lecture de ce genre de nouvelles, puis à la fin on est souvent, très souvent désemparé, totalement désemparé.
Oui, mais vous savez, moi j'étais aussi, je parlais de Victor Hugo, mais j'étais aussi beaucoup influencé par la littérature russe. Alors il y a le plus grand écrivain d'après moi qui est Gogol, et puis il y a cette pièce extraordinaire, Le Réviseur.
Encore un idiot.
Oui. Et à la fin, les personnages éclatent de rire, et puis quelqu'un se lève et dit : de quoi vous riez ? Vous riez de vous-même. Mmh. Et c'est ce sentiment qu'on a quand on écrit, et comme vous le dites, quand on lit ces histoires.
On écoute un peu de musique, oui. Choisie par vous, Anne-Marie Simon, encore une fois, oui. En l'occurrence, Ascenseur pour l'échafaud. Miles Davis, pourquoi ?
Parce que je trouve que cette musique, c'est peut-être que ce sont les plus beaux morceaux de Miles Davis, pour moi. Mm-hmm. Thank you.
Radio Suisse Romande, la première. Devine qui vient dîner.
Tout a commencé pour vous dans les années 70, dans le journal des Pieds-Niclés.
Oui, enfin, tout a commencé, disons que à cette époque-là, j'avais 20 ans. Et
19.
Donc, 19, oui, c'est possible, je ne me rappelle plus, enfin, peu importe. Et donc, je mettais mes planches là où on me les prenait, et donc il y avait très peu de journaux, enfin il y avait pas mal de journaux, mais il y en avait très peu qui étaient intéressés par mes travaux, parce qu'il faut remettre ça dans 20 ans en arrière. Donc, hein.
Avant la bande dessinée, il y avait déjà la BD dans votre existence?
Mais j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Moi j'ai décidé que je ferais de la bande dessinée, enfin plutôt dans un premier temps du dessin animé à l'âge de 7 ans. Et j'ai fait du dessin animé, donc j'ai réalisé mon rêve d'enfant, donc je n'ai aucun mérite.
Mais qu'est-ce qui alimentait ce désir?
Bon, je sais pas, vous savez, c'est une passion enfantine. Hein. Les passions enfantines sont les plus résistantes.
Sur les premières lectures, alors les...
Oui, ben c'est justement... C'est Mickey, c'est l'ami public numéro 1, c'est les fascicules italiens, Kiwi, Black Le Rock, Zambla, et tous ces trucs-là, quoi. Et puis bon, on sait jamais trop d'où ça vient, hein, quoi. C'est vrai, ouais. C'est lié à des intérêts enfantins, quoi. Faire de la bande dessinée pour que les gens s'identifient, pour soit les faire sourire ou les faire frémir ou les faire pleurer. Si je pouvais faire pleurer les gens, on y arrive très bien à faire pleurer au cinéma, parce qu'à ce moment-là, il y a la musique, il y a la caméra qui est braquée sur les yeux larmoyants, il y a tout un truc, quoi, tout un avant et tout un après. Alors comment dessiner, c'est déjà beaucoup plus difficile.
Ouais.
Il faut vraiment que vous réussissiez à ce que le lecteur soit identifié à votre histoire et surtout aux personnages. C'est surtout les personnages qui font pleurer, c'est pas le mélo en question.
Vous pouvez fermer les yeux?
Oui.
Voilà. Si vous imaginez le paysage qui s'offre à vous le matin en Bretagne, ça ressemble à quoi?
Une femme nue avec les seins lourds courant sur la plage.
C'est tout à fait lui. Lui, c'est Régis Loisel.
Oui.
J'ai passé cette voix, là, un petit extrait d'un entretien que par essence, on était en 1993. Il était au Festival de BD de Sierre. L'année d'avant, il avait reçu un prix, je crois, pour je ne sais, c'était pas Peter Pan, pas encore.
Peut-être.
Un autre album. Non, je crois qu'il était en train de le concevoir à ce moment-là. Parce que. Avec Régis Loisel et d'autres, Max Cabane entre
oui.
autres, dans ces années 70, juste après les années 68, 69, etc. Vous êtes dessinatrice, vous vous lancez dans la bande dessinée
oui.
et vous fondez avec eux un journal dont je garde un souvenir ému, ça n'a pas duré longtemps.
Non.
C'est regrettable. Ça s'appelait Tous Bourrins.
Oui, c'est ça.
Rien que pour le jeu de mots, Tous Bourrins. Personnellement, personnellement et toute une bande comme ça, on était avides de toute cette langue, de ce dessin, de cette provocation, de cette ouverture à une autre forme de pensée. Alors il y avait Fluide Glacial pour lesquels vous avez travaillé aussi, avec quelques autres. Vous en attendiez quoi de ces journaux-là, de ce ton-là et de cette époque-là en général?
Mais j'étais comme ça.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous espériez de tout ça? Rien, finalement.
Non, rien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand on a envie de créer, on crée. Et puis, on se dit, ce serait quand même mieux si ça pouvait sortir, passer dans le public, si on pouvait gagner des sous avec ça. Parce que sinon, on tire toujours le diable par la queue. Mais le plaisir premier, c'était de créer, d'inventer des histoires. Et j'adorais inventer des histoires, les plus étranges possibles, parce que j'adorais les histoires étranges et les histoires absurdes. Et dans les années 70, il y avait une mode chez les dessinateurs, mais qui ne faisait pas de la bande dessinée. Et aussi de la bande dessinée. Par exemple, Alexis faisait de l'absurde complet, mais il y avait, par exemple, Topor, Cardon, comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais qui est assez proche de Cardon, et que j'aimais aussi énormément. Et il y avait le dessin, il y avait cette forme. Le dessin était conçu comme une œuvre d'art, et non pas un moyen par l'esquisse, le travail, comme faisait Ingres, par exemple, ou beaucoup de dessinateurs du 19e, 18e, 17e. Le dessin avait sa valeur. Et d'ailleurs, Louis Souter a prouvé qu'avec le dessin, on pouvait tout faire aussi.
Louis Souter, auquel vous avez consacré...
Oui, j'adore Louis Souter aussi, pour d'autres raisons.
Ah oui, alors forcément pour d'autres raisons. Oui. D'autres époques. Et, en dehors de la jeunesse, parce qu'on peut imaginer que... qu'on garde une forme de nostalgie d'une époque. Quels sont les regrets que vous formuleriez par rapport à cette époque-là et en considérant la nôtre aujourd'hui ?
Non, aucun.
Aucun ?
Non, non.
C'est
parce
bien.
Que parce que j'ai toujours. Alors c'est évidemment ça fait un peu boutade et ça fait même tout à fait absurde. J'ai fait tant de métiers différents parce que chaque fois qu'un métier me filait entre les mains, il fallait que je trouve autre chose, j'inventais autre chose, je me lançais dans autre chose et puis j'apprenais autre chose et je faisais autre chose. Et c'est comme ça que j'ai fait du dessin de mode, du graphisme, du dessin de textile que j'ai fait. Je me suis aussi intéressée au théâtre, j'ai fait travailler pour le théâtre et puis après j'ai fait de la bande dessinée et je me souviens, j'ai fait de la bande dessinée parce que Jean Genoux, l'imprimeur, que tout le monde connaît à Lausanne, m'a dit un jour, c'était un ami, on avait travaillé ensemble quand je faisais du dessin de mode, m'a dit, écoute, mais pourquoi est-ce que tu fais ces grands dessins? C'était des grands dessins que je faisais de 70 sur 100, qui étaient immenses, que j'aurais voulu continuer à faire, mais là, je n'avais plus les moyens. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans le monde de la bande dessinée? Ils font des dessins absolument... à vous arracher les tripes, complètement absurde, c'est exactement ce qu'il te faut. Et je me suis dit, eh bien oui, d'accord, c'est exactement ce qu'il me faut, je vais essayer. Et j'ai écrit à Barbarie, qui était un tout jeune journal ici à Lausanne.
Oui.
Et puis ils m'ont accepté, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai appris sur le tas.
Vous avez commencé avec Alice ?
J'ai commencé avec un ou deux dessins qui étaient très courts, une double page. Puis après, j'ai commencé avec Alice.
Très vite, finalement.
Immédiatement.
Elle s'est dessinée très vite.
Oui, oui. Pas la petite Alice. La nouvelle Alice, qui est celle que vous avez vue dans tout ce bourrin.
Oui, c'est ça.
Avec les cheveux blonds, avec une grande jupe, débraillée. Et la petite Alice, c'est un avatar de la nouvelle Alice, puisqu'il lui restait les bareillés, le petit décolleté foncé.
En quelque sorte. Non, parce qu'elle est marrante, Alice. La petite Alice.
La petite Alice.
La petite Alice.
Oui, mais je l'ai créée beaucoup plus tard aussi. Oui.
D'où elle vous sort, cette petite Alice? D'où elle vous vient? Alors, on a bien compris que sa rébellion, son désir absolu, elle passe sa journée, sa nuit, sa vie entière à résister et à refuser l'obéissance.
Voilà.
Alors, deux parents, accessoirement, bon, parce que c'est bien eux qui la représentent. Ils ne sont pas d'ailleurs si terribles que ça, ses parents. Non. C'est dans les journaux, ils sont durs parce qu'ils sont tout le temps en train de dire, oui, cette mère bourgeoise, ça va. On la voit tout le temps en train de faire la cuisine, etc. Elle n'est pas si bourgeoise que ça, la mère.
Non.
Elle fait son job de mère, quoi.
Bah, voilà. Et d'ailleurs, je me suis dit, de temps en temps, si j'avais un enfant comme ça, je crois que j'aurais beaucoup de peine.
À gifler, Alice.
Ben oui, mais ma foi, sa mère n'avait pas assez de poigne.
Non, hein. Donc c'est pas une bourgeoise, la mère, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord avec les journalistes qui disent que c'est une bourgeoise.
Mais vous
moi,
savez...
je me reconnais plus dans la mère que dans la fille.
C'est vrai.
Ben oui.
Mais moi, je me reconnais plus dans la fille. Alors, ça irait pas du tout.
Ben non. Ah ben si. C'est comme ça, les couples mère-fille, hein. C'est comme ça que ça marche.
Ah, voilà.
C'est une catastrophe.
Alors, la petite Alice est venue parce que je manquais de travail et je me suis dit, je vais inventer ça. Mmh. Et puis, j'ai présenté un projet d'une dizaine de strips et je les ai envoyés à la Gazette de Lausanne. Et la Gazette de Lausanne m'a dit, OK.
Puis, vous n'hésitez pas parce qu'à côté d'Alice, il y a Spartacus.
Ah, mais non. Évidemment, esclave révolté.
Le cousin, oui, évidemment, c'est Spartacus, quoi.
Oui,
celui
c'est
qui,
Spartacus.
qui dirige la révolte des esclaves, je ne sais pas, un siècle avant Jésus-Christ, hein, j'imagine, quelque chose comme ça.
Oui, je pense.
Oui, aux alentours de ça, enfin, c'est avant Jésus-Christ, en tout cas, un bon siècle, oui. Donc, le cousin Spartacus.
Voilà, forcément.
Oui. Bah oui, forcément.
Et puis, sa grand-mère fume le cigare.
Bien sûr. Évidemment, tout ça est très normal. Je citais Don Juan tout à l'heure, donc qui est le modèle de votre premier roman, de ce Giovanni, de ce conte que vous situez d'ailleurs dans la Venise du 18e, donc un Don Juan, un livre que vous dédiez à Philippe Dubuc, J'aime bien. Ça doit être lourd quand on est le compagnon ou l'époux d'une femme qui écrit, de recevoir en dédicace comme ça un bouquin sur une espèce de... C'était un hommage flatteur ou une mise en garde?
Non,
dans les années 90?
Non. C'était en 90, oui. Non. C'était un hommage à son amitié, à son amour. Il m'a aidée, il m'a permis d'écrire parce qu'il faut les moyens et sur le moment, je n'avais pas les moyens. Ouais. Donc, non. Et quand il sera réédité, eh bien, il lui sera dédié, ainsi qu'à mes parents. Je ne sais pas comment mes parents, là, vont réagir parce que mon père n'aimait pas du tout ce que je faisais et ma mère, plus. Mmh.
Ce Don Giovanni, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure des époques passées, de ces époques comme ça, de rêves, d'utopie active, comparée à une époque aujourd'hui qui me semble précisément pas libertaire du tout, qui aurait même tendance à être tout le contraire, à interdire les libertés individuelles. Et on voit bien que ce Giovanni, c'est un libertin, mais pas libertaire. Un libertin du 18e qui va prendre des leçons dans la liberté absolue que requiert l'amour, le désir, le sexe, l'exercice véritable de l'amour et de l'amour physique et du désir. Il ne le sait pas, ce libertin-là.
Non, il ne
sait pas ce que c'est que d'être libertaire, précisément.
Je pense qu'il est foncièrement égoïste dans cette liberté d'aimer et de se faire aimer. Et ça le retombe sur la figure.
C'est pour ça que je ne comprends pas bien que vous trouviez qu'il n'y a pas de regret à avoir. Enfin, en même temps, non, il faut pas en avoir. Mais
pas de regret à avoir. Pourquoi ?
L'époque d'aujourd'hui n'est quand même pas précisément libertaire. On ne va pas vers ça. On a le sentiment d'être dans des époques où...
Je ne sais pas.
Qui nous rendent toujours plus esclaves de choses qu'on...
Alors, évidemment, vous pouvez me le dire parce que j'ai toujours travaillé seule et que je suis complètement individualiste à cause de ça et que je ne travaille pas en groupe. Si j'ai travaillé en groupe, c'était toujours avec des artistes et des originaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans une société de contraintes. Oui, des contraintes,
de patron,
on en a toujours, de patron, avec une hiérarchie, je ne sais pas ce que c'est, parce que je déteste la hiérarchie. Alors, disons que ce Don Giovanni, ce Don Juan, est un séducteur égoïste, il ne pense qu'à lui. Il le reconnaît d'ailleurs.
Je vous propose d'écouter une autre voix, une très belle voix. Vraiment très belle. Alors, pour le propos, moi, j'ai pas tout compris, mais je suis certaine que ça ne sera pas votre cas, Anne-Marie Simon.
Je suis un admirateur du cosmos, en toute simplicité. Alors, le cosmos m'habite tous les jours et je l'habite tous les jours. Nous avons des rencontres quotidiennes via l'ordinateur et où je pense que on ne voit pas à quel point ce qui nous entoure est un lieu d'étonnement. L'étonnement est le commencement de toute, non seulement curiosité, mais c'est le commencement de la vie. Quand vous étiez un petit embryon, et j'ai de la peine à imaginer ça en vous voyant, quand vous nagiez quelque part, vous ne vous posez pas des questions de définition. Donc c'est le phénomène de la métamorphose qui est le phénomène fondamental, parce que tout est en instance de métamorphose. Mais comme une société veut s'établir et que une société bourgeoise s'établit lourdement, ce que Rimbaud enfin disait, il parlait de cul assis, mais il ne faut pas passer ça naturellement à la radio, c'est-à-dire des certitudes que l'on croit durables, alors que ces certitudes sont toujours relatives, circonstancielle. À preuve, la mise en question maintenant, par exemple, des fondements de la culture francophone ou des fondements de la culture, de la pensée occidentale, on découvre qu'une pensée orientale ou des pensées orientales ou des pensées sud-africaines, ou africaines, veux-je dire, ou de l'Amérique du Sud, impliquent des conceptions du monde, des rites tout à fait différents. Qu'on aurait eu tendance auparavant à dire c'est un objet de connaissance et dont on a tendance, en tout cas moi, de dire aujourd'hui c'est des lieux d'expérience.
Cher parrain René, ne me gronde pas, je n'ai pas pu t'écrire de tout l'automne. Maman travaillait comme une enragée à deux grands livres, Louis Souterre et Cardon. Elle a dû te dire qu'elle et papa ont créé une maison d'édition, mais ce n'est pas ça qui me tracasse le plus. C'est la raison pour laquelle ils veulent fabriquer et vendre des livres. On était très bien sans vouloir gagner des ronds à vendre des bouquins. Et puis maman, épicière en quelque sorte, elle qui ne parle que d'art, c'est à tomber le cul par terre. Remarque, c'est surtout papa qui s'occupera de vendre les livres, maman, elle, les fabriquera. Il n'empêche que lorsqu'elle ne travaillait qu'à son accusateur, elle avait meilleur caractère. Ce n'était qu'un aparté. Toutes ces semaines d'attente m'ont laissé le temps de réfléchir à mon sujet préféré, les relations entre les chiens et les humains. Et par extension, au moins, c'est marrant, entre les femmes et les hommes, etc. etc. Bref extrait, très bref extrait de ce dernier roman, épistolaire, enfin plutôt courriellaire d'ailleurs, puisque ce sont les emails de Max à son parrain. Oui. Alors Max est un chien, un schnauzer.
Oui.
C'est votre chien ?
C'était, parce qu'il est mort.
Ah bah voilà. Ça, c'est le destin des chiens aussi, comme des humains d'ailleurs, curieusement.
Il y a un parallèle saisissant. Il est mort de l'épilepsie dont il était très fier.
Voilà. Et il écrit à son parrain, et son parrain, c'est René Berger qu'on vient d'entendre.
Oui.
Vous êtes folle, en fait, Anne-Marie Simon.
Ah oui, peut-être.
Oui.
Non, mais non, non, pas tout à fait.
Non,
parce que
fait.
René Berger a été mon professeur.
Pas définitivement, disons.
Ah, si c'est un peu, c'est définitivement. Oui. Même si c'est un peu beaucoup, c'est définitivement.
C'est pas grave.
C'est pas grave. René Berger a été mon professeur d'histoire de l'art quand j'étais à l'École des Beaux-Arts. Et puis, passé l'histoire de l'époque des Beaux-Arts, on vivait à Lausanne. Lausanne n'est pas très grande, donc on se voyait de temps en temps. On a gardé des contacts. Et puis, de temps en temps, on se voyait, on parlait d'animaux. Et il adore les animaux et moi aussi. Et puis, un jour, après la mort de ma chienne Alice, à qui est dédiée la petite Alice, donc la vraie Alice,
oui.
C'est l'autre Alice qui ne parle pas. On a eu un chien, ça a été un ratage parce qu'il était trop fort, donc il a fallu le mettre à la campagne chez des cousins. Il a été très heureux, donc je pense
il était trop dominant.
Non, il était trop grand, trop fort. C'était un boxer, mais qui était même immense pour un boxer. Et il m'a cassé des miroirs, il m'a cassé un tas de choses. Il pouvait pas vivre, il était malheureux, donc on a trouvé cette formule et on a choisi de prendre un schnauzer. Moyen, poivre et sel. Et puis, il n'était pas chez nous. C'était un espèce de petit voyou qui détestait obéir.
Encore un.
Encore un. Et qui détestait obéir. Et puis, je ne savais pas encore. J'avais écrit, envoyé un email à René. Et d'ailleurs, vous le lirez dans le recueil de ses emails. Que je lui demande s'il veut bien être le parrain de Max, qui était le prénom qu'on avait trouvé pour le chien. Alors, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas, que ce n'était pas possible. Et puis, je ne me le suis pas tenue pour dit, j'ai attendu un peu. Et puis, un beau jour, j'ai dit à Max, tu vas écrire à ton parrain.
Il vous a obéi parce que des rares fois où il a obéi, c'est quand vous lui avez demandé d'écrire à son parrain.
Après, on se disputait de clavier. Alors, il a écrit à son parrain, il a écrit plusieurs fois. Et un jour, René a réagi, et disant combien il était attaché à ce filleul. Et alors a commencé, c'est évidemment un roman épistolaire à sens unique, puisque c'est toujours Max qui écrit. Et en grandissant, et quand j'ai remis tous ces emails ensemble, j'en ai supprimé certains, j'en ai raccourci certains, j'en ai coupé pour... mais c'est toujours dans le temps, le temps est respecté. Je me suis rendu compte... qu'il détestait obéir, qu'il passait son temps à se dire « Comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas obéir à maman ?» Parce que j'obéis toujours, même si je ne veux pas. Alors, il cherche tous les moyens, puis il raisonne. Il tient des raisonnements absolument extraordinaires. Et au début, on voit un petit garçon, puis après un garçonnet, et puis après un adolescent. Et on sent ce passage, et j'ai eu un plaisir à faire ça. J'écrivais pendant que, quand j'en avais assez, je prenais le clavier, il y avait Max qui était à côté de moi, qui devait ronchonner sûrement. Et puis, je lui faisais écrire à son parrain. Et René me téléphonait le soir en me disant « J'ai reçu un email de Max », alors on en parlait.
En tout cas, ça donne ce roman.
Ça a donné ça.
Très étonnant, très extravagant, essentiellement sur les rapports entre les hommes et même pas les chiens d'ailleurs. C'est plus que ça, entre les hommes et ce qui l'entoure. Entre ce qui entoure l'homme et que l'homme ne considère peut-être pas comme il le devrait toujours.
Oui, il fait beaucoup de reproches aux hommes.
Beaucoup de reproches
aux femmes aussi.
Oui, à sa maman surtout. Une espèce d'autocritique comme ça. Elles sont tout flagelles. Marie-Simon, elle prend de temps en temps le fouet et puis se tape un peu dans le dos.
Oui, oui. Je m'envoie beaucoup de vacheries dans le...
Oui, oui. Où en est l'accusateur? C'est quoi cet accusateur? Il en est où?
Alors, c'est un roman que j'ai commencé au milieu des années 90. Après avoir terminé Ariane, j'ai repris Ariane après encore, j'ai revu les versions. Je l'ai commencé parce que je pensais avoir fini Ariane. Et puis, ça a duré parce que, il y a toujours des problèmes dans la ville et la vie familiale. Et j'ai été empêchée de travailler souvent. Ce qui fait que l'élaboration de ce roman a duré très longtemps. Et à l'heure actuelle, quand on a commencé la maison d'édition, j'ai dû l'abandonner complètement. Donc il est resté 2 ans dans mon ordinateur, puis je l'ai repris, et puis j'avais très peu de temps, donc je travaillais 2 mois, et puis le reste du temps je faisais les maquettes, les couvertures, je suivais le travail chez l'imprimeur pour les livres qu'on faisait paraître. Et maintenant j'ai réussi à avoir 4 versions, donc on peut dire qu'il a avancé. Mmh. Mais je ne peux pas dire qu'il ait réussi, parce que ça me rappelle ce que disait Henri Troyat de ses propres romans. Il dit « tant qu'il n'est pas réussi, il est raté ».
Max semble dire que vous partagez avec Gustave Flaubert le goût de la lenteur dans
l'écriture
et du travail.
Donc oui, la seule chose qu'il a en plus, il a le génie, parce qu'il est épileptique.
Oui.
Oui.
Ah bon ? Vous n'avez pas de génie, vous ?
C'est lui qui le dit.
Enfin, ça n'est qu'un chien, vous n'avez pas commencé à le croire. Elle est folle. Et vous, Benjamin Dollinger, qu'est-ce que vous préparez ?
Écoutez,
puisque vous voyagez dans votre tête, vous avez dit tout à l'heure, je voyage dans ma tête.
Comme elle a dit Anne-Marie, on écrit parce qu'on a besoin d'écrire. Il y en a qui ont dit comme l'abeille doit faire du miel. Alors, j'écris tout le temps, mais je ne suis pas sûr que c'est toujours du miel de la meilleure qualité.
Miel amer, parfois, un peu.
Oui.
Alors, mais vous ne savez pas toujours si vous publierez, en fait. Vous écrivez, vous écrivez.
Oui.
Et puis après, on verra.
Après ça, on verra.
Vous l'envoyez,
il sera édité.
Oui, il sera édité, point final. Voilà, c'est fait. Oui. Donc, écrivez. Puis vous serez édité. Ça, c'est pas votre affaire, finalement. C'est celle de l'éditeur.
Mais oui, il faut bien qu'on soit aidé un peu. J'ai eu de la chance avec Anne-Marie.
Oui, parce que c'est une formidablement belle maison d'édition. Elle fait des beaux livres.
Non, alors, je sais pas, elle a travaillé beaucoup avec moi. Elle m'a beaucoup aidé. Je lui dis ma reconnaissance.
Je vous remercie, Anne-Marie Simon, d'avoir accepté cette invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Dont je rappelle le dernier roman paru, Les emails de Max à son parrain, édition du Héron, votre maison d'édition. C'est facile de s'éditer soi-même.
Ça fait un effet un peu curieux parce qu'on se dit on va penser que je pourrais passer n'importe quoi, ce que j'ai fait de plus mauvais. Or c'est pas vrai, je pense que j'ai fait de bonnes choses et les mauvaises je les ai jetées.
Merci Anne-Marie Simon. Et merci à vous Benjamin Dollinger.
C'est moi